Vous écoutez Radio France Internationale, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Oswi.
Jeudi 23 janvier. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Prenez donc place pour la session soirée de l'info sur RFI. C'est parti pour 3 heures, voici les temps forts. Dans 10 minutes, ce sera le décryptage. Véronique Rigolet, évidemment, après la trêve au Proche-Orient, quelle gouvernance pour Gaza ?
Et oui, c'est la grande inconnue de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur dimanche dernier. Question cruciale qui reste en suspens alors que l'idée d'une administration unique avec la Cisjordanie est rejetée par Israël et que le Hamas, qui contrôle toujours Gaza, eh bien, entend bien y jouer un rôle. Nous en parlerons avec deux spécialistes du Proche-Orient, Agnès Levallois et Stéphanie Latt-Haber.
Eh bien, tout à l'heure, Véronique, juste après, le débat du jour se penchera sur ce phénomène de société qui est observé actuellement en France. Des femmes de plus en plus féministes et des hommes de plus en plus masculinistes. C'est un constat dressé par le Haut Conseil à l'égalité. D'où notre question, la guerre des sexes est-elle relancée? Qu'est-ce que cette situation dit de notre société? Comment réduire le clivage? Rendez-vous donc dans 30 minutes. Dans une heure, ce sera le grand journal du soir et le dossier qui sera ce soir consacré à la prise de parole de Donald Trump au Forum économique de Davos, qui était très attendu cette prise de parole. 18h30 TU, Afrique Soir, la première édition, 19h10 temps universel, pendant 50 minutes. Votre session reportage, Accent d'Europe, qui ce soir sera en Lituanie, où de nombreux Biélorusses ont fui. La Biélorussie va voter dimanche pour des élections qui sont qualifiées de simulacres. Enfin, le grand reportage ce soir nous emmènera au festival Amani de Goma, en RDC, où quand la musique répond aux armes.
RFI.
Voilà pour le programme, mais pour l'heure, allez, tout pile, 18h02 ici à Paris. Bonsoir Karine Bélichard.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et on ouvre ce journal par la situation en Cisjordanie occupée.
C'est la troisième journée d'intervention des forces israéliennes à Jenin. Aujourd'hui, des centaines de Palestiniens ont fui le camp de réfugiés de la ville. Pierre-Olivier, bonjour.
Bonjour.
C'est une vaste opération de l'armée qui a déjà fait 12 morts.
Oui, 4 jours après le cessez-le-feu à Gaza, c'est sur un autre front que les violences se poursuivent. Karine, alimentée par un soutien inébranlable de Washington à Israël. Depuis mardi, l'État hébreu mène une opération d'envergure à Jenin, à une dizaine de kilomètres à l'est de ses frontières. Baptisée Mur de Fer, cette opération vise, d'après Benjamin Netanyahou, à éradiquer le terrorisme dans la ville et notamment des djihadistes du mouvement islamiste palestinien qui se dissimuleraient dans le camp de réfugiés de Jenin. Avec des bulldozers, des blindés, le renfort de l'aviation, Israël ne lésine pas sur les moyens. Les routes qui mènent au camp ont été détruites pour s'assurer, selon l'armée, qu'aucun engin explosif n'y soit caché. Mais les témoignages sur place se multiplient. Les habitants sommés d'évacuer le camp auraient fui à pied sous les bruits de drones. Une version des faits démentie par Israël qui annonce dans le même temps avoir abattu 2 membres du djihad islamique. Le bilan des 3 jours, lui, serait bien plus lourd. Au moins 12 morts, vous l'avez dit, selon les autorités palestiniennes.
Pierre-Olivier du service international d'RFI. On l'évoquait dans les titres. Donald Trump vient de prendre la parole à Davos. Avant une séquence de questions-réponses avec les grands patrons, le président américain a livré sa version du monde et des affaires par visioconférence au Forum économique mondial. On l'écoute.
Mon message à toutes les entreprises du monde est très simple. Venez produire aux États-Unis et vous bénéficierez de taxes parmi les plus basses de la planète. Nous les baissons de manière très substantielle, encore plus que lors de mon premier mandat. Mais si vous ne venez pas produire aux États-Unis, ce qui est votre droit, vous devrez payer des droits de douane qui nous permettront de remplir nos caisses de centaines de milliards de dollars et même de milliers de milliards de dollars pour renforcer notre économie et effacer nos dettes. Sous l'administration Trump, il n'y aura pas de meilleur endroit sur Terre pour créer des emplois, construire des usines ou créer une entreprise qu'ici, dans ces bons vieux États-Unis. Vous pouvez peut-être déjà le voir dans cette merveilleuse salle où tant de mes amis sont réunis, mais aux États-Unis, la confiance dans l'économie monte comme jamais depuis des dizaines d'années. Peut-être même que ça n'a jamais été le cas à ce point-là.
Loin de Davos et de Washington, à Los Angeles, les pompiers sont de nouveau à pied d'œuvre. Un nouvel incendie s'est déclenché hier au nord de la ville. Il avance vite. Des milliers de personnes ont dû être évacuées en urgence. Et les vents vont se renforcer. Les prévisions météo sont mauvaises, au moins jusqu'à demain matin. Mais le gouverneur de Californie est rassurant. Cet incendie est sans commune mesure avec ceux qui ont ravagé la région il y a une quinzaine de jours. L'ONU avait déjà dénoncé un apartheid de genre. Aujourd'hui, la CPI lance des mandats d'arrêt contre des hauts dirigeants talibans. Le régime afghan est officiellement accusé de persécuter les femmes. Le chef des talibans est visé, ainsi que le président de la Cour suprême du pays. À La Haye, les explications de Stéphanie Mompa.
Crime contre l'humanité pour persécution contre les femmes et les filles afghanes, ce sont les actes reprochés par le procureur Karim Khan aux deux responsables talibans. Les accusations portent sur des persécutions abjectes et répétées, a dit le procureur, des persécutions commises depuis le 15 août 2024 au moins et qui sont aujourd'hui toujours en cours. L'accusation suspecte aussi les deux responsables talibans de réprimer toute opposition par des meurtres, des tortures, des viols et des violences sexuelles. Dans une vidéo postée en ligne, Karim Khan promet d'autres mandats d'arrêt contre des responsables talibans et contre des membres de la branche afghane de l'EI, l'État islamique dans la province du Khorasan. Le procureur demande la coopération des États dans un contexte où la Cour affronte de nombreuses critiques, dont celle des Occidentaux qui reprochent à Karim Khan le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Dans l'affaire visant les talibans, la balle est désormais dans le camp des juges. Ils peuvent confirmer, amender ou rejeter les demandes du procureur, mais ils n'ont aucun délai pour rendre leur décision. Stéphanie Mopala et RFI.
En Ukraine, les autorités ont ordonné l'évacuation des enfants dans la région de Kharkiv, une mesure rendue nécessaire par l'avancée de l'armée russe. 16 localités de l'est de l'Ukraine sont concernées. Une tempête s'annonce en Europe. Elle va frapper l'Irlande et l'Écosse demain avant de gagner le nord de la France au week-end. Les prévisionnistes parlent d'une bombe météorologique. Le changement de pression très rapide qui peut être dévastateur. Des vagues de 10 mètres sont attendues et des vents dépassant les 130 km/h. En France, les syndicats de l'Office français de la biodiversité doivent être reçus à Matignon demain, avec pour objectif de calmer la tempête. Lors de sa déclaration de politique générale, François Bayrou avait accusé les inspecteurs de l'OFB d'humilier les agriculteurs déjà pris à la gorge. Les incidents entre l'établissement public et le monde agricole se multiplient. Les explications de Pauline Glaise.
Il y a une question de calendrier, analyse Léo Magnien, chercheur au CNRS. Des élections aux chambres d'agriculture se tiennent en ce moment.
C'est une manière aussi pour les différents syndicats en lice de mobiliser leur base électorale sur un symbole qui est bien identifié maintenant depuis au moins les mobilisations de l'an dernier.
Un symbole alors que les contrôles agricoles ne représentent qu'une petite partie de l'activité de l'Office français de la biodiversité. Un symbole repris la semaine dernière dans la déclaration de politique générale de François Bayrou qui a qualifié de faute certaines inspections avec une arme.
Il n'y a vraiment aucun incident qui est relevé de la part d'agents de l'OFB, que ce soit en utilisant l'arme ou non. C'est une énigme de savoir pourquoi cette question-là atterrit dans un discours de politique générale, qui est une manière de construire l'illégitimité d'un pan de l'État par un autre pan de l'État.
Dans la foulée, un agent de l'OFB critiquant sur France Inter les requêtes de certains agriculteurs a estimé que c'était comme si les dealers demandaient aux policiers de ne plus venir dans les cités. Aux yeux du co-auteur de Polices environnementales sous contrainte, cette comparaison malencontreuse a servi le discours de deux des trois principaux syndicats.
Ça ne pouvait pas s'appuyer sur des exemples précis. Donc bien finalement, la phrase a fait office de justification a posteriori d'un discours qui était déjà là.
Depuis les mobilisations de l'année dernière, Léo Magnien note un moindre contrôle des exploitations agricoles.
Le drapeau arc-en-ciel flotte avec fierté en Thaïlande, commandaire de la présidente. Après l'entrée en vigueur de la loi autorisant le mariage entre personnes du même sexe, beaucoup de monde s'était réuni en plusieurs points de Bangkok pour célébrer la nouvelle. L'homosexualité reste illégale dans la moitié des pays d'Asie et peut entraîner une peine de prison de plusieurs années. C'est une confirmation, Emilia Pérez, par favori aux Oscars. La liste des nommés est désormais connue, le film de Jacques Audiard récolte 13 nominations et c'est un record. Il devient ainsi le film non anglophone le plus nommé de tous les temps. Emilia Pérez raconte la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain. Enfin, un mot de tennis à l'Open d'Australie. Arina Sabalenka s'est qualifiée pour sa troisième finale consécutive. La Biélorusse a facilement battu l'Espagnole Paola Badosa. C'est la première joueuse à disputer trois finales de suite à Melbourne depuis Serena Williams. Arina Sabalenka sera opposée en finale à Madison Keys. L'Américaine a réussi à se débarrasser en 3-7 disputés de la numéro 2 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le décryptage de Véronique Rigolet. Restez à l'antenne d'RFI.